Bien, alors il me revient donc de présider cette séance. Samantha Besson m'a fait l'amabilité de me le demander. Je vous remercie d'être revenus si nombreux. L'intérêt pour le colloque ne faiblit pas. Et aujourd'hui, nous allons explorer des horizons, disons, sinon plus lointains, du moins peut-être moins familiers. Proche tout de même, l'étranger proche quand même, comme disent les Russes, en ce qui concerne le premier intervenant que bien entendu je ne présente pas, on n'a pas besoin de présenter Henri Laurens. Je rappelle, pour les temps de parole, que comme hier, on alloue environ 30 minutes aux exposés pour se laisser environ un quart d'heure de discussion. Et sans plus attendre, je passe donc la parole à Henri.
Merci, France. Donc, comme vous savez, Fernand Braudel, dans la Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, avait fait de la Méditerranée un personnage historique. Le problème étant, si je puis dire, c'est que la Méditerranée n'était pas au courant. Et on le voit bien ici, puisque vous avez la définition de la Méditerranée dans l'encyclopédie, qui montre que c'est une pure expression géographique. Même chose dans le dictionnaire géographique de Lamartinière en 1768, on a donc toujours cette pure définition géographique de la Méditerranée. En fait, on a dans la très longue histoire de la Méditerranée une phase qu'on peut appeler la phase de l'époque moderne, celle qui commence au XVIe siècle. Alors d'abord, sur le plan climatique, c'est le moment où s'enclenche le petit âge glaciaire. Petit âge glaciaire qui fait que la Méditerranée est frappée par... les rivages méditerranéens sont frappés par de très violents épisodes méditerranéens, comme nous les connaissons maintenant aujourd'hui, ce qui rend les espaces de basse altitude absolument hostile. Donc les populations abandonnent les vallées et les rivages pour se réfugier sur les hauteurs, dans une immense culture de hauteur, par un système de terrasses. Là, cette magnifique photo représente des terrasses en Cisjordanie. Après les incendies de l'année dernière, elles sont réapparues, tout à fait visibles sur le paysage, alors que d'habitude, la végétation cache ce système de terrasses. Donc les populations se sont réfugiées dans les hauteurs. En même temps, elles ont bénéficié de l'arrivée des produits américains, la tomate, le haricot, la pomme de terre, le maïs, etc. Ce qui montre déjà que la Méditerranée est dans un espace mondialisé, y compris dans la rive sud. Alors, c'est aussi un système d'élevage qui est mis en place entre les hauteurs et les basses altitudes. Je passe, mais je n'ai pas le temps. L'autre problème de la Méditerranée de l'âge moderne, c'est la course. La course islamique, mais aussi la course européenne, c'est-à-dire donc ces corsaires qui font une hantise pour toutes les populations qui sont à proximité des littoraux. On a calculé à peu près qu'entre 1500 et 1800, 1 300 000 Européens auraient été pris captifs dans la course islamique en Méditerranée. Alors, c'est très compliqué, ces histoires de la course, parce que, par exemple, au XVIIIe siècle, les corsaires d'Alger ont des lettres de marque françaises. Donc, on voit que le système est plus bizarre qu'on ne peut le penser. Enfin, il ne faut pas l'oublier, la Méditerranée est avant tout islamique. Vous voyez sur la carte, la Méditerranée européenne, c'est l'Espagne, la France et l'Italie, avec un petit morceau de l'Albanie. Le reste, c'est l'Empire ottoman et le Maroc. Donc la Méditerranée comme terre est islamique. En revanche, la mer est européenne. Ce sont les flottes méditerranéennes européennes qui contrôlent la mer, essentiellement des flottes de commerce, et la première étant la France avec Marseille, et les négociants musulmans utilisent les navires européens pour faire transporter les marchandises de port en port, ne serait-ce que c'était une protection contre la course chrétienne, éventuellement musulmane. Donc la mer est européenne, mais la terre est très largement musulmane. Les flottes de guerre, il y en a, évidemment, elles sont européennes, enfin méditerranéennes. Donc on a les vieilles, celles de l'âge classique, Raguse, Venise, Pise, etc., Marseille, l'Espagne et tout, et aussi les extra-européennes qui sont arrivées au XVIIe siècle, c'est-à-dire les Anglais et les Hollandais qui sont présents. Et alors à la fin du XVIIIe siècle, on aura les Russes et les Américains qui seront présents militairement en Méditerranée. Alors la peste étant endémique en Méditerranée, les accès de l'Europe à la Méditerranée sont bloqués par des sas d'entrée, c'est-à-dire des ports qui ont le monopole de l'entrée et de la sortie avec système de quarantaine. C'est le cas de Marseille qui a le monopole pour la France du contact avec la Méditerranée. Et vous le savez, en 1720, il y a un navire qui a triché et c'était la dernière grande peste en France. Alors, la naissance de la Méditerranée contemporaine, c'est à la fin du XVIIIe siècle. C'est d'abord la redécouverte de l'Antiquité. Herculanum, Pompéi, le Grand Tour, qui commence à s'élargir à la Grèce. C'est le moment du néoclassicisme qui se fonde sur la redécouverte de l'Antiquité, sur le plan architectural et esthétique. C'est aussi toute la longue méditation sur les ruines de l'Antiquité qui indique la précarité de l'histoire humaine. Et enfin, on le voit très bien à partir de 1800, le discours négatif porté sur les Grecs modernes, qui sont définis comme trompeurs, corrompus et vaniteux, se transforme progressivement en peuple en train de se régénérer dans son combat pour la liberté. Il suffit de voir la différence de Chateaubriand de l'itinéraire de Paris à Jérusalem au Chateaubriand philhellène 20 ans après. L'importance géostratégique de la Méditerranée est liée à la route de l'Inde qui s'établit à partir de 1790 dans cet espace. En gros, la Grande-Bretagne dit à tous les autres « touche pas à ma route de l'Inde ». Et c'est l'enjeu des guerres de la Seconde Coalition avec l'expédition française d'Égypte, 1798 à 1820, dont le premier but est de couper la route de l'Inde. À partir de 1815, la course se trouve interdite par le Congrès de Vienne et des expéditions militaires européennes, je dis européennes parce que c'est conjonction de plusieurs flottes de guerre, et américaines, bombarde Alger et les autres ports de la course, et de facto, la course s'arrête vers 1815-1820 à peu près. Elle sera définitivement interdite sur le plan international par le Congrès de Paris en 1856. Mais le grand événement, évidemment, c'est la révolte grecque de 1821, dont on a déjà fait allusion hier, qui met fin aux équilibres internes de l'Empire ottoman. Le mouvement philhellène mobilise l'opinion publique occidentale au nom d'une renaissance de la Grèce antique, alors que le mouvement est avant tout d'inspiration chrétienne orthodoxe. Il entraîne une intervention militaire franco-britannique en 1828, c'est la bataille de Navarin, enfin le massacre plutôt de la Navarin, en 1828, et de 1828 à 1833, une flotte d'armée française sera en Morée, c'est l'expédition de Morée, c'est-à-dire le Péloponnèse, pour séparer les combattants. Donc ça, c'est le français de l'expédition de Morée. Alors, là, si le règlement diplomatique de la crise grecque a lieu en 1831, la révolte grecque a enclenché toute une série de processus. D'abord, c'est la fin de la piraterie grecque elle-même. Jusqu'en 1835, Les Grecs continuent à faire de la piraterie en Méditerranée orientale et l'ordre règne à partir de 1835. Donc on peut dire qu'en 1835, trois siècles de piraterie méditerranéenne sont terminés. Le second, c'est la balkanisation, c'est-à-dire l'indépendance croissante des États balkaniques au détriment de la Turquie d'Europe, au prix de terribles massacres et de déplacements forcés de populations. Ceci dans le cadre de la route de l'Inde, donc ça amène la guerre de Crimée, la guerre russo-ottomane de 1878 et les guerres balkaniques de 1912-1913. Donc ça, ce sont les étapes de la balkanisation. Avec un problème supplémentaire, où sont les Balkans? Est-ce que les Balkans sont en Europe ou non? Et après tout, les Balkans n'ont pas été carolingiens, pas protestants, pas catholiques, n'ont pas connu la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, et ont été profondément marqués par cinq siècles d'histoire ottomane, compte tenu que tout ça s'inscrit sur un parcours millénaire où la péninsule balkanique est reliée étroitement à l'Anatolie sur le plan historique. Alors, jusqu'à 1914, les géostratèges mettent plutôt les Balkans dans le Proche-Orient que dans l'Europe. Il faut encore avouer que c'est un facteur de migraine pour les cadres de l'Union européenne d'aujourd'hui de savoir si les Balkans sont, oui ou non, en Europe. Je me souviens d'en Grèce, 75, la première fois que j'allais en Grèce, des jeunes Grecs m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas européens. Alors, le troisième point, c'est le résultat scientifique de l'expédition de Morée qui s'adjoint au résultat scientifique de l'expédition d'Égypte et à ceux qui sont entrepris par les Français en Algérie à partir de 1830. Donc là, vous avez le frontispice de la description de la Morée sur le modèle de la description de l'Égypte. Et là, nous avons l'invention de la Méditerranée sur le plan scientifique, puisque les savants français définissent la Méditerranée maintenant par un climat, une faune, une flore spécifique et des antiquités gréco-romaines. Et c'est donc là où se construit l'image méditerranéenne, c'est dans les années 1830. Et ça conduit évidemment à l'invention politique de la Méditerranée par Michel Chevalier, le grand Saint-Simonien, qui a été aussi signalé hier, avec sa phrase célèbre, la Méditerranée a été une arène, un champ clos, durant 30 siècles, l'Orient et l'Occident se sont livrés bataille. Désormais, la Méditerranée doit être comme un vaste forum vers tous les points duquel communieront les peuples jusqu'ici divisés. La Méditerranée va devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. Donc, en fait, la Méditerranée, comme projet culturel et politique, c'est l'abolition de la différence entre l'Orient et l'Occident. Mais en même temps, commence le colonialisme européen avec l'expédition d'Alger en 1830 qui refuse aux musulmans l'application du droit des nationalités. Et en fait, l'Algérie va être soumise à une épouvantable guerre de conquête dans les années 1840, suivi d'une entreprise de colonisation, de peuplement et de refoulement. Mais au moment où les Français terminent la conquête de l'Algérie, le petit âge glaciaire se termine, c'est-à-dire aux alentours de 1850. Ça va enclencher tout un processus historique de reconquête des littoraux méditerranéens, avec en particulier la fin des marais. Parce que le petit âge glaciaire a laissé des marais avec la malaria sur toutes les rives de la Méditerranée. Donc on peut dire que ça commence dans les années 1840 par la mise en valeur de la métidja par les colons français en Algérie. Ça se terminera probablement en 1960, dans les années 60, par la démoustication de la côte languedocienne en France. Mais pendant près de deux siècles, enfin disons un siècle et demi, le travail essentiel en Méditerranée, c'est la reconquête des littoraux et la suppression de la malaria. On rappelle Mussolini, les les marais pantins, etc., grande gloire du régime fasciste dans les années 1930. Les villages souches de la Méditerranée, donc ceux qui sont sur les hauteurs, commencent à déverser leur population vers les littoraux. Et à ce moment-là, tout un nouveau paysage méditerranéen se met en place, celui que vous connaissez, que vous pensez qu'il est là de toute éternité, mais qui date de la seconde moitié du XIXe siècle. Des palmiers, des agrumes, la culture des agrumes s'étend partout. Les villes portuaires se dotent de magnifiques corniches de bord de mer. Et une nouvelle société méditerranéenne trouve sa sociabilité dans le café, où les hommes, en très grande majorité, se retrouvent autour de boissons souvent alcoolisées. C'est le triomphe pan-méditerranéen de l'anisette, de l'Espagne à l'Empire ottoman. Et je pense qu'il faudrait un jour qu'on fasse un programme européen de recherche sur l'histoire de l'anisette. La conquête du rivage se poursuit par l'utilisation du rivage comme remède aux maladies de poitrine qui frappent l'Europe du XIXe siècle, à toute la tuberculose. Et donc, les gens vont passer l'hiver ou même l'ensemble de l'année dans ces endroits de sauvetage que sont les côtes méditerranéennes. Ensuite, ça va être le dénudement des corps des gens du Nord, qu'on va passer du tourisme d'hiver au tourisme d'été à partir de 1900, et avec l'ultime aversion d'aujourd'hui, qui est la réapparition d'un tourisme d'hiver pour les Scandinaves et les Anglo-Saxons sur toutes les rives de la Méditerranée. Alors, il se forge ainsi un nouveau mode de vie méditerranéen qui fait envie aux gens du Nord, qui ignorent totalement l'extrême dureté du travail des paysans de l'intérieur. D'un côté, les Méditerranéens sont supposés manquer d'esprit de travail, de sérieux, en particulier dans la gestion du temps, Magnana, Bocran, etc., vous connaissez. De l'autre, on leur impute divers archaïsmes, comme l'esprit de clan, la mafia, la vendetta. On pose ainsi l'existence d'une personnalité méditerranéenne participant à la fois à l'Europe et à l'extra-européen. Mais en même temps, cette Méditerranée est prise dans la lutte des races. D'abord par le colonialisme lui-même. Et les Français en Algérie se posent en Romains, Abdelkader étant l'incarnation d'un Vercingétorix arabe. Et donc ça, c'est la fameuse proclamation de Napoléon III au peuple algérien, qui conduira au fameux Senatus Consulte faisant des Algériens des Français. Et donc, qui sait si un jour ne viendra pas où la race arabe régénérée et confondue avec la race française ne retrouvera pas une puissante individualité semblable à celle qui, pendant des siècles, a rendu maîtresse des rivages méridionaux de la Méditerranée. En revanche, d'Alexandrie à Salonique, se forme une civilisation méditerranéenne de l'échange des produits, des idées et des mœurs. C'est la fameuse levant de la fin du XIXe siècle, où le français est la langue de communication et de culture. C'est un levant pluriconfessionnel, mais donc chacun doit rester à l'intérieur de sa confession. Le tabou suprême, c'est le mariage. On ne peut pas se marier entre communautés différentes. On peut se marier entre chrétiens, on peut se marier entre juifs, on peut se marier entre musulmans, mais on ne peut pas se marier entre les trois communautés. Alors, l'idée levantine que les Britanniques méprisent parce qu'elle produit du mélange est l'idée méditerranéenne par excellence, mais elle va se trouver condamnée par la montée des nationalismes qui en rejettent les indéterminations. Dans le bassin occidental de la Méditerranée, face à la domination des Anglo-Saxons protestants, se développe l'idée des races latines qui doivent former un bloc politique face à l'hégémonie mondiale de la race anglo-saxonne. Donc les Latins, ce n'est pas simplement ceux de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne et la France, mais c'est aussi ceux de l'Amérique latine, dans le projet de race latine. Ça va conduire et ça va échouer dans l'expédition française du Mexique dans les années 1860. Dans les années 1860 toujours, Frédéric Mistral a vanté l'idée latine d'abord contre les anglo-saxons, puis ensuite, à partir de 1871, le Philibrige se tourne contre les Germains vainqueurs. Il faut à la fois rendre la liberté aux cultures provinciales et se rapprocher des nations sœurs italiennes et espagnoles. Un peu partout, le mouvement Philibrige français organise des fêtes latines pour réunir les représentants dans l'ensemble des races latines en France. Ce mouvement Philibrige, du moins son origine, était plutôt de gauche, mais il va passer à droite avec Charles Maurras, qui se tourne sur une apologie de Rome, symbole de l'ordre, contre l'anarchie juive. Mais il a surtout comme illustration l'œuvre de Louis Bertrand, Le sang des races, qui est la fusion des races latines à travers les Européens d'Algérie, mais en rejetant évidemment les Juifs et les musulmans. Et Louis Bertrand est considéré comme un très grand écrivain au début du XXe siècle français. Les monuments romains sont ainsi annexés par une France latine qui fonde sa légitimité en Afrique du Nord sur le souvenir de Rome. Alors c'est là que se pose le problème allemand. L'Allemagne victorieuse de 1871 célèbre la victoire d'Arminius à Teutobourg contre les légions romaines, donc c'est le monument de 1875. Alors, si vous voulez en savoir plus, regardez sur Netflix la série allemande Barbarians, dans laquelle au moins les soldats romains parlent en latin et pas en anglais comme d'habitude, ce qui est déjà un avantage, mais qui raconte l'histoire de la bataille de Teutobourg et de la destruction des légions romaines. Mais si Arminius a gagné, l'Allemagne perd la Méditerranée. C'est l'enjeu qui fait que l'Allemagne va contre-attaquer pour revendiquer la Grèce comme germanique en faisant des Doriens un peuple germanique. Les Grecs étaient des Ariens avant qu'ils ne succombent dans l'horrible mélange des races des époques hellénistiques et romaines. Donc l'idée méditerranéenne s'affirme ainsi par la mémoire, ou plutôt par le patrimoine gréco-romain. Mais il se heurte, comme l'écrira Jean Amrouche en 1938 dans un très beau texte, à l'éternel Jugurtha, c'est-à-dire le maghrébin, le berbère, qui résiste de toute éternité à toute conquête étrangère. Et il donne l'impression de céder, mais finalement, il retourne à sa vraie patrie, où il entre par la porte noire du refus. Donc on a trois figures, si vous voulez. On a Arminius qui chasse les Latins, on a Vercingétorix, Abdelkader, qui accepte le pouvoir latin, et Jugurtha qui se dérobe. Donc la Méditerranée est l'enjeu de la lutte des races, aussi bien européennes que non-européennes. Et jusqu'à aujourd'hui, l'assimilation entre Rome et la France coloniale alimente un discours historiographique sur les résistances indigènes à la romanité que l'on ne retrouve pas dans les autres parties de la Méditerranée qui, il est vrai, sont devenues latines ou ont fait partie de l'héritage d'Alexandre. Alors, à partir de 1880, la Méditerranée se mondialise puisqu'elle participe à la première mondialisation et par centaines de milliers, les Méditerranéens vont vers les nouveaux mondes, vers les nouvelles Europes. Anatoliens, arabes, grecs, italiens se précipitent vers le monde entier. Il en résulte que dans la plus grande partie de la Méditerranée, les villageois plus exactement, se sentent beaucoup plus proches de Chicago ou de Buenos Aires que de Paris ou de Rome, puisqu'ils ont des cousins, des parents sur les deux Amériques et un peu plus tard en Afrique du Sud et en Australie, et encore un peu plus tard en Afrique de l'Ouest. Donc c'est la mondialisation de la population méditerranéenne créant à la base un réseau de relations qui touche directement les sociétés villageoises. Mais dans le XXe siècle, l'idée méditerranéenne, c'est aussi le symptôme du fait que l'Europe a perdu le contrôle de la modernité. La modernité, elle est devenue technique, elle est américaine, ce sont les abattoirs de Chicago, c'est le Babbitt de Lewis, de Sinclair Lewis en 1922. La Méditerranée est l'arme pour les Européens de conserver la culture et la moralité, la civilisation, face à la barbarie techniciste qui est maintenant celle du Nouveau Monde. C'est le moment où Paul Valéry pose la Méditerranée, et ça c'est une monnaie contemporaine tunisienne faisant référence à Jugurtha, comme vous pouvez le voir. Donc c'est Paul Valéry avec le Centre universitaire de la Méditerranée en 1938, et la grande idée qui est la Méditerranée, la machine à créer de la civilisation. Sous-entendu, les autres n'en ont pas. On ne dit pas comme ça, mais c'est un peu derrière. Mais c'est surtout la Méditerranée comme anti-américanité qui se développe dans l'entre-deux-guerres. Alors, vous avez toute l'apologie de la culture méditerranéenne dans des textes qui vont devenir universels. On peut penser à Giono, à Marius de Pagnol, mais aussi bon, Kazantzakis, etc. Tous ces écrivains de la Méditerranée dans le milieu du XXe siècle, y compris chez les anglo-saxons, chez Laurence Durrell, même un Henri Miller, Colosse de Mars aussi, qui est cette apologie de la Méditerranée et du mode de vie méditerranéen. Alors, dans la même période, c'est en 1937, le jeune Albert Camus qui fait de la Méditerranée un mode de vie, quelque chose qui est du vivant contre Rome. Il rejette la latinité qui est le fondement du colonialisme français en Algérie, mais en même temps, il dit « une tradition est un passé qui contrefait le présent ». La Méditerranée qui nous entoure est au contraire un pays vivant, plein de jeux et de sourires. La Méditerranée, c'est la vie et pas le colonialisme. C'est un rejet, évidemment, de Maurras et de Mussolini dans les écritures du jeune Camus. Là, il est encore à Alger à ce moment-là. Alors, cette idée méditerranéenne, elle est relayée par un Taha Hussein en Égypte qui affirme que l'Égypte est méditerranéenne, par les phénicistes libanais qui prolongent le projet levantin. On s'appuie sur le gréco-romain pour rejeter l'opposition entre l'Occident et l'Orient. Alors, après 1945, il y en a qui arrivent un peu en retard, ce sont les anthropologues, parce qu'ils étaient jusque-là occupés par les Nambi-Kawara et autres peuples exotiques. Et donc, les anthropologues s'interrogent sur l'existence d'une personnalité méditerranéenne dont la valeur suprême serait celle de l'honneur, ce qui permet de regrouper sous la même étiquette clientélisme, mafia, vendetta, crime d'honneur au détriment des femmes. Mais on trouve que ce type d'honneur est plutôt inconnu dans l'Antiquité, ce qui est gênant si on veut faire une personnalité méditerranéenne, et que surtout, ça se prolonge bien plus vers l'Est, vers le plateau iranien, l'Arabie saoudite, etc. Et donc, il n'est pas si spécifiquement méditerranéen. Le problème, c'est qu'on trouve toujours des contre-exemples, et toute portion de la Méditerranée se trouve incluse dans des ensembles plus vastes. Il en est de même quand les anthropologues analysent les systèmes de parenté pour développer à partir de Robert Montagne la théorie segmentaire, qui spécifiquement méditerranéenne, elle aussi, etc., mais qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Alors, à partir de 1815, la mer est contrôlée par la flotte de guerre britannique de Gibraltar à Chypre et Alexandrie à la fin du XIXe siècle. La flotte française se réserve le passage de la Méditerranée occidentale, enfin, elle contrôle la Méditerranée pour assurer le passage entre l'Afrique du Nord et la France. À partir de 1947, les Britanniques épuisés cèdent la place aux Américains qui font de la 6e flotte le rempart du ventre mou de l'Europe. Depuis 1949, en gros, l'Europe militairement est protégée par la 6e flotte américaine et pas par les flottes de guerre européennes encore aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête. Dans la foulée, la Grèce et la Turquie adhèrent à l'OTAN, portant jusqu'au Caucase le système défensif occidental. La décolonisation renforce la césure. Les bases militaires occidentales de la rive sud sont fermées les unes après les autres. La dernière est celle de Willows Field en Libye, évacuée en 1970 par les Américains. Les colons français et italiens et les Levantins européens quittent aussi cette rive, souvent dans des circonstances dramatiques. Bon, enfin bon, ça nous donnera un certain nombre de grands chanteurs, musiciens de variété en France, Dalida, Claude François, Richard Anthony, etc., puisqu'on parlait de l'Eurovision, hein. Il faut continuer dans cette voie scientifique. Mais au moment où la décolonisation se produit, alors qu'au XIXe siècle, au début du XXe siècle, la Méditerranée s'était mondialisée par l'immigration, elle se européanise, puisque d'à partir des années 50, c'est la grande migration des populations de la rive sud vers le nord, y compris l'extrême nord, si j'ose dire, jusqu'à la Scandinavie, à partir des années 1990. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir à la télévision une série scandinave sans qu'il y ait moins un ou deux ou trois personnages qui soient d'origine méditerranéenne et moyen-orientale. Ce qui montre bien que même la Scandinavie est devenue en partie méditerranéenne. Alors c'est là où on est dans les complexités de notre temps, puisque si la Méditerranée s'européanise, les fractures anciennes réapparaissent, comme celle de l'opposition à l'islam, alimentée d'abord par le terrorisme djihadiste et secondairement par le conflit autour du corps de la femme, voilée, pas voilée, dénudée, pas dénudée, etc. Ça donne ça, si vous voulez. Ce qui est assez pitoyable, si j'ose dire. C'est notre cher ministère qui a fait ces affiches-là. Il en est ainsi des origines judéo-chrétiennes de l'Occident. Au départ, ce terme utilisé par les néo-païens germaniques fustigeait la christianisation des peuples nordiques qui auraient ainsi perdu leur originalité première. Il a été ensuite repris à juste titre pour lutter contre l'antisémitisme. Jésus était juif. Puis dans les discours de combat de la guerre froide contre l'athéisme communiste. Dans le cadre de la question de Palestine et des affrontements actuels, le judéo-christianisme est perçu comme une exclusion de l'islam par bien des musulmans. Alors, s'il faut rappeler en histoire, la seule véritable création du judéo-christianisme, c'est l'islam. Mais ça, il ne faut pas le dire. La question méditerranéenne est passée ainsi progressivement au centre du projet européen. Elle ne l'était pas vraiment lors du traité de Rome, si on admet à la rigueur qu'une des raisons qui ont poussé le gouvernement français de Guy Mollet à signer le traité de Rome, c'est l'échec de l'expédition de Suez l'année précédente. Mais le traité de Rome fondait une Europe, qu'on peut dire, carolingienne, celle de Charlemagne. La définition culturelle pouvait s'appuyer sur la continuité historique entre l'Antiquité classique et le présent, à partir de l'intégration des anciens royaumes barbares, achevée au début du second millénaire de notre ère. Après tout, les Polonais, Hongrois et autres avaient participé au Moyen-Âge et à la division entre catholiques et protestants. Alors, le moment clé a été l'admission de la Grèce en 1981 dans l'Union européenne. C'est la dernière grande manifestation de philhellénisme. Dès lors, on entrait dans un monde orthodoxe et byzantin qui ne permettait plus de définir une frontière culturelle de l'Europe. La question turque s'ouvrait, mais il était certain que la construction européenne, qui avait beaucoup de difficultés à régler les problèmes de la pêche à la morue, n'était pas prête à gérer les frontières du Caucase et les eaux de l'Euphrate. On l'a bien vu dans les échecs répétés sur la question de Chypre. La mise en place de l'euro a conduit à la stigmatisation en 2008 des pays méditerranéens accusés de ne pas avoir de discipline financière et de recourir à des endettements considérables. Ils sont ainsi réunis sous l'acronyme péjoratif de PIGS, Portugal, Italie, Grèce et Espagne, Spain, donc PIGS. On voit bien la poursuite du thème de la fourmi nordique et de la cigale méditerranéenne. À partir des années 1990 et des premières années 2000, s'impose la problématique de gérer le déséquilibre constitué par la quasi-unification de la rive nord, comme vous pouvez voir sur la carte. Il ne reste plus qu'un petit morceau de Balkan qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et une rive sud totalement divisée et conflictuelle. C'était l'ambition du processus dit de Barcelone, puis de l'Union pour la Méditerranée. Implicitement, le projet était de remodeler par diverses incitations la rive sud pour la rendre plus compatible avec la vision européenne. Le plus intéressant était de voir l'Europe du Nord se découvrir une dimension méditerranéenne du fait de l'accueil des réfugiés et des migrants de travail. Ce remodelage s'est heurté à la vérité crue de la nécessité de maintenir des régimes forts sur la rive sud pour faire barrage au passage vers l'Europe des réfugiés migrants. Caricature terrible de dilemme de grands dessinateurs algériens. Ces régimes ont ainsi obtenu un instrument de chantage vers les pays européens, tandis que la traversée de la Méditerranée, maintenant aussi celle de l'Atlantique et de la mer du Nord, a pris une dimension tragique. Si la Méditerranée redevient une barrière pour les sans-papiers, sa forme moderne est façonnée par les multiples migrations de peuples, Volker van der Hoogt, je ne sais pas si je prononce correctement, diaspora des peuples du Sud dans l'ensemble de l'Europe, installation des retraités européens jusqu'à la rive sud, mouvement estival des touristes vers les deux rives, séjour estival dans le pays d'origine pour les descendants de migrants, etc. Jamais les courants de migration de peuples n'ont été aussi fortes en Méditerranée que ces dernières années. Enfin, je parle d'avant le Covid, évidemment. Mais elle est aussi marquée par les échanges et les conflits, au nord comme au sud. Parce qu'elle a été et reste un enjeu pour les pays du nord comme du sud, aussi bien culturellement que politiquement, la Méditerranée constitue un autre projet que celui de l'Europe, puisque l'abolition de la différence entre Orient et Occident rendrait encore plus impossible de définir des contours fixes pour l'Union européenne. Je vous remercie.